Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la problématique du codage binaire utilisé pour représenter les nombres au sein des ordinateurs. Nous verrons comment fonctionne ce codage pour représenter des nombres entiers naturels, des nombres entiers négatifs, ainsi, plus tard, que des nombres à virgule flottante. Ces éléments sont à la base de la façon dont calculent les processeurs des ordinateurs modernes. Diapo suivante. Nous utilisons de façon habituelle la notation positionnelle. Celle-ci vise à représenter un nombre sous la forme d'une séquence de chiffres, c'est-à-dire un ensemble fini de signes, de glyphes, qui ont un sens particulier en tant qu'ils représentent une quantité. Chaque chiffre au sein d'un nombre va représenter, de par sa position, le multiple d'une puissance d'un nombre appelé la base. Lors de l'écriture, on considérera les puissances à partir de 0 de la droite vers la gauche, et plus on se déplacera vers la gauche, plus la base sera considérée à une puissance élevée. En ce qui nous concerne, nous utilisons couramment la base 10, comprenant les chiffres de 0 à 9. Par exemple, le nombre 123, si on le prend de la droite vers la gauche, contient 3 unités, 3 fois 10 à la puissance 0, 2 dizaines, 2 fois 10 à la puissance 1, et une centaine, 10 à la puissance 2. Diapo suivante. Historiquement, la notation positionnelle présente de nombreux avantages par rapport au système de représentation des nombres qui ont pu la précéder. Par exemple, à la différence de l'écriture en chiffres romains, pour lesquels les lettres représentaient des quantités différentes, on utilise toujours les mêmes chiffres de façon finie. Les symboles de 0 à 9 seront toujours ceux qui seront utilisés, alors que dans l'écriture en chiffres romains, on avait des symboles différents pour 1, 10, 100, 1000, et plus on cherchait à représenter des nombres élevés, et plus il fallait mobiliser de nouvelles lettres. Qui plus est, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sens d'une lettre ne saurait pas lire un nombre. Alors que dans la notation positionnelle, une fois que l'on connaît les 10 chiffres de 0 à 9, quelle que soit la taille du nombre, on saura toujours la quantité qu'il représente. La notation positionnelle permet donc d'écrire facilement de très grands nombres. Diapo suivante. En ce qui concerne les ordinateurs, quand on les construit, il faut trouver des systèmes physiques qui sont capables de représenter l'information. Pour cela, on va s'intéresser à des systèmes physiques qui ont plusieurs états, et ces états différents serviront de support au codage de l'information. Les systèmes physiques les plus simples possèdent deux états. Par exemple, dans un circuit électrique, soit il y a de la tension, soit il n'y en a pas. Lorsqu'on considère un aimant, il peut être orienté vers le pôle nord ou vers le pôle sud. En ce qui concerne la lumière, il peut y en avoir ou ne pas y en avoir. Pour la surface d'un CD-ROM ou d'un DVD, il peut y avoir une surface plane ou un trou, et ainsi de suite. En fait, très facilement on trouve des systèmes physiques à deux états qu'il est très simple de positionner en écriture ou en lecture, alors que d'autres systèmes à plus de deux états, trois ou autres, sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Et c'est pour ces considérations simplement pratiques que, au final, la notation binaire va être considérée comme naturelle pour représenter les états de la mémoire d'un ordinateur. On associera le chiffre 0 à un état et le chiffre 1 à l'autre. Diapo suivante. Donc, la notation binaire utilise la base 2 et les chiffres 0 et 1 uniquement. Les mécanismes d'écriture et de lecture sont cependant les mêmes que pour d'autres bases, comme la base décimale que nous avons vue. Si on considère le nombre 101011 en base 2, si on le prend de la droite vers la gauche, on a une unité, une fois 2 puissance 0, une deuxaine, une fois 2 puissance 1, 0 quatrenne, c'est-à-dire 2 puissance 2, une huitaine, une fois 2 puissance 3, 0 seizaine et une trente-deuxaine. Au final, si l'on somme les nombres, on obtient la valeur équivalente que l'on peut exprimer en décimale. D'ailleurs, pour lever toute ambiguïté, on indique parfois la base, en décimale, puisque là il faut une convention, sinon le problème n'aurait pas de fin, à la fin du nombre. Par exemple, le nombre 101011 en base 2 ne représente pas la même quantité que le nombre 101011 en base 10, que, en base 10, nous lirons plutôt 101011. Comme nous l'avons vu dans la décomposition binaire du nombre 101011, lorsqu'on additionne la seizaine, la huitaine, la deuxaine et l'unité, nous obtenons le nombre 43 en base 10. Donc 101011 en base 2 vaut 43 en base 10. Diapo suivante. En binaire, on compte exactement comme dans toute autre base. C'est-à-dire que lorsque dans une colonne on est arrivé au plus grand chiffre, et que l'on veut rajouter 1, que l'on veut incrémenter, la procédure est tout à fait standard, on remet la colonne à 0, et on propage la retenue, c'est-à-dire qu'on cherche à incrémenter la puissance supérieure. Par exemple, 0 plus 0 donne toujours 0, 0 plus 1 donne 1 et il n'y a pas de retenue, de même que 1 plus 0 qui donne toujours 1 sans aucune retenue. En revanche, quand on additionne 1 plus 1, on sait bien en base 10 que cela fait 2. Mais en binaire, il n'y a pas le chiffre 2. Donc, on repasse à 0 la colonne des unités et on propage une retenue dans la colonne des 2n. Donc 1,0 se lit 2 en décimale. Diapo suivante. Pour énumérer les nombres binaires, on applique le principe d'incrémentation successive en partant de 0. 0, 0 plus 1 donne 1. 1 plus 1, nous avons vu, ça donne 2 en décimale, donc une douzaine et une unité, donc 1,0 en binaire. Puis 1,1, 1,0,0, 1,0,1, 1,1,0, 1,1,1. Et puis ensuite, on arrive sur les nombres à 4 chiffres. 1,0,0,0, 1,0,0,1, 1,0,1,0, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Diapo suivante. Cependant, ce système, comme on l'a vu, s'il est relativement simple, puisque finalement on n'a que deux chiffres à apprendre, est extrêmement fastidieux. C'est-à-dire que même des nombres que nous avons l'habitude de manipuler couramment, des petits nombres, nécessitent, si on les écrit en binaire, énormément de chiffres pour les écrire, et donc deviennent très longs à lire, à écrire, et de fait, pour manipuler des nombres tels que nous le faisons, il faut trouver une notation plus économe en place. Diapo suivante. Le problème à résoudre est donc de trouver une base qui réponde à plusieurs critères. Puisque les ordinateurs utilisent au final le système binaire, il faut trouver une base qui se convertisse facilement en une écriture binaire. De fait, il s'agit de regrouper plusieurs valeurs binaires, plusieurs bits, au sein du même chiffre de cette base à trouver. De fait, il faut que cette base soit une puissance de 2. Comme on l'a vu, la base 2 ne convient pas, elle est trop petite. Mais une base trop grande ne conviendrait pas non plus, parce que, au final, dans une base, on est obligé d'apprendre tous les chiffres. Donc si on imaginait une base 2 puissance 5, c'est-à-dire 32, il faudrait retenir 32 chiffres, ce qui veut dire, par exemple, pour une table de multiplication, apprendre une table de 32 lignes et 32 colonnes. Ce serait extrêmement pénible. Une autre contrainte est que cette base doit permettre d'écrire facilement des octets. En effet, pour des raisons historiques, on regroupe les valeurs binaires en mots d'une certaine taille, et historiquement, les bytes, B-Y-T-E-S, les paquets de valeurs binaires, les paquets de bits, ont pu avoir des tailles extrêmement variables. Il y a pu y avoir des bytes à 6 bits, des bytes à 9 bits, et finalement, on en est arrivé à une valeur standard, qui est celle de l'octet, le byte de 8 bits, pour des raisons de convenance, c'est-à-dire que sur un octet, on est capable de représenter une grande diversité de caractères, et donc l'octet est finalement la taille élémentaire qui permettra de représenter un caractère par octet, et de fait de représenter une chaîne de caractères par une suite d'octets. Si l'on veut pouvoir découper un octet en morceaux, puisqu'un octet c'est 8 bits, on ne peut pas découper en paquets de 3 parce qu'on aurait un premier paquet de 3, un deuxième paquet de 3, et puis ensuite un paquet de 2. Et finalement, on perdrait de la signification. Le poids fort du chiffre serait toujours à 0, puisque finalement on a 2 bits signifiants et puis une valeur qui n'existe pas. Donc il faut que le logarithme de cette valeur de base soit un diviseur de 8. Cela nous restreint donc le choix possible, soit à la base 4, soit à la base 16. Utiliser une base 4 revient à utiliser 4 chiffres et à grouper les bits 2 par 2. Finalement, même pour un grand nombre, on utiliserait encore beaucoup de combinaisons pour le représenter. C'est pour cela que les ingénieurs ont préféré utiliser la base 16. 10, ça se dit déca en grec. 6, ça se dit hexa. Et donc, on parlera de codage hexadécimal, c'est-à-dire en base 16. Effectivement, 16 c'est 2 puissance 4, le log en base 2 de 16 c'est 4, c'est la moitié de 8, ce qui veut dire qu'en fait, un octet sera découpé en deux chiffres hexadécimaux. Diapo suivante. Puisque nous avons 16 chiffres à définir, on peut déjà prendre les 10 premiers que nous connaissons, ceux de 0 à 9. Et puis après, il nous en faut 6 autres, et les mettre toujours dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il faut trouver un codage des chiffres qui soit déjà connu de la plupart des gens qui auront à utiliser ce système. Quel est le système de chiffres, c'est-à-dire de glyphes, de signes, que nous utilisons déjà? C'est l'alphabet, et nous savons déjà depuis notre enfance comment l'ordonner de A jusqu'à Z. Et donc, pour représenter les chiffres hexadécimaux, on va prendre les chiffres décimaux de 0 à 9, puis ensuite basculer vers l'alphabet que nous connaissons. C'est ce qui est représenté dans le tableau de la diapositive. On prend donc un paquet de 4 valeurs binaires, 0000, 0001, 0010, 0011, et ainsi de suite, comme on l'a vu précédemment. Et on associe, dans l'ordre croissant, des chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Le nombre B0A en base 16 se lit toujours de la même façon, de droite à gauche. A unité, 16 puissance 0, plus 0, 16N, 16 puissance 1, plus B, 256N, puisque 16 fois 16, ça fait 256. Si l'on veut le traduire en décimale, on voit que A est l'équivalent du nombre 10, puisque c'est celui qui est juste après 9. 0, bien sûr, a toujours le même sens, quelle que soit la base. Et B est juste après A. A vaut 10, B vaut 11. Donc la représentation en décimale du nombre hexadécimal B0A, c'est 11 fois 16 au carré, plus 0 fois 16, plus 10 fois 16 puissance 0, ce qui fait 2826 en base 10. Et comme vous pouvez le voir, dès le moment où une base est plus grande, le même nombre peut s'écrire avec moins de chiffres. La quantité 2826 nécessite 4 chiffres décimaux, mais seulement 3 chiffres hexadécimaux. Parce que le codage hexadécimal est très proche du binaire, on l'utilise dans énormément de langages informatiques, de façon naturelle, de façon native, pour représenter par exemple certaines valeurs des octets que l'on enverra sur le réseau ou qui serviront à paramétrer des périphériques. Et donc, dans la plupart des langages informatiques, il existe un moyen de représenter les nombres hexadécimaux, et pour les distinguer des nombres décimaux, ils sont préfixés par 0x en minuscule ou 0x en majuscule, c'est tout à fait équivalent, le x voulant dire hexadécimal. Diapo suivante. Maintenant, comment calcule-t-on en binaire? Nous avons vu déjà comment additionner deux chiffres binaires ensemble. Que se passe-t-il quand on doit additionner deux nombres en binaire? Si l'on prend un paquet de n bits, un mot de n bits, on voit que chaque bit peut prendre la valeur soit 0, soit 1, c'est-à-dire qu'on a deux possibilités différentes pour chaque bit, et de fait, avec n bits, on dispose de 2 puissance n combinaisons possibles qui permettent de représenter des nombres entiers naturels de 0 à 2 puissance n moins 1. Dans l'exemple qui est donné en bas de la diapositive, on voit un premier codage 00110101, c'est-à-dire une unité, plus 4, plus 16, plus 32, c'est-à-dire 53. Le deuxième nombre, 10010100, vaut en décimale 148. Comment effectue-t-on l'addition de ces deux nombres binaires? Exactement comme pour l'addition en décimale que l'on a apprise à l'école, on commence toujours de droite à gauche. Première colonne, 1 plus 0 donne 1, il n'y a pas de retenue. Colonne suivante, 0 plus 0 donne 0, et il n'y a pas de retenue. Colonne suivante, 1 plus 1 donne 10, c'est-à-dire 1 et 0, 10 en binaire, c'est-à-dire 2 en décimale, mais 0 dans la colonne des unités, et une retenue qui est propagée à la colonne suivante. Dans cette colonne suivante, on a 0 plus 0, mais plus la retenue qui vaut 1. Donc le résultat vaut 1, et il n'y a pas de retenue. Colonne suivante, 1 plus 1 donne 0 et je retiens 1. Colonne suivante, 1 plus 0 donne 1, mais plus la retenue de 1, 1 plus 1 ça fait 0, avec une nouvelle retenue qui est propagée. Colonne suivante également, 0 plus 0 plus 1 de retenue donne 1. Et enfin, la colonne la plus à gauche, 0 plus 1 donne 1. L'addition est terminée, et si l'on traduit le nombre binaire 1100-1001 en décimale, on trouvera 201, qui est effectivement le résultat de la somme de 53 et 148. C'est tout à fait naturel que l'on trouve finalement le même résultat dans chacun des deux systèmes, puisque ces deux systèmes servent à représenter la même quantité, les mêmes nombres. Et donc, l'addition doit bien évidemment donner le même résultat, quel que soit le système. Diapo suivante. Maintenant que l'on sait comment représenter des nombres entiers naturels, se pose naturellement la question de représenter des nombres négatifs. Pour cela, il faut finalement coder une information supplémentaire qui est « est-ce que le nombre est positif ou négatif ?» On voit finalement ici que l'on a deux choix, et que donc ces deux choix peuvent être encodés dans une position binaire, qui peut, par convention, valoir 0 si le nombre est positif, ou 1 si le nombre est négatif. On va donc accoler au nombre une valeur que l'on appellera le bit de signe, et, pour des raisons extrêmement astucieuses, on va utiliser pour stocker ce nombre le bit le plus à gauche du mot machine, celui qui est représenté en gris en bas de la diapositive. Simplement, si l'on utilise l'un des bits du nombre pour coder le signe, cela veut dire que la valeur résiduelle qui peut être codée sur les bits restants sera nécessairement inférieure. Si on a un nombre de n bits, on peut représenter des nombres naturels de 0 à 2 puissance n moins 1. Si on enlève un bit pour le bit de signe, alors il restera n moins 1 bits, et donc la partie restante, la partie en blanc, ne pourra coder les entiers naturels que de 0 à 2 puissance n moins 1 moins 1. Pour les nombres positifs, on voit que finalement l'écriture n'a pas changé. Le 0 du bit de signe n'a aucun sens particulier dans la lecture, et donc le nombre 00 00 00 00 vaudra la valeur 0, le nombre 00 00 00 01 vaudra naturellement la valeur 1, et la plus grande valeur que l'on peut représenter pour laquelle le bit de signe reste à 0 sera 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire avec tous les autres bits à 1. Et ici, quand on a 8 bits, donc 1 octet, la plus grande valeur entière naturelle sera 127. Diapo suivante. Comme on l'a dit, lorsque le bit de signe est à 1, on considère que le nombre est négatif. La question qui en découle, c'est, dans ce cas-là, de quelle manière va-t-on coder les nombres négatifs sur les n-1 bits restants ? Diapo suivante. Une solution simple, puisqu'elle revient à réutiliser un codage que l'on connaît, consiste à coder ces nombres négatifs au même format que celui que l'on a utilisé pour coder les nombres entiers naturels. Par exemple, si l'on veut coder le nombre -1, on met le bit de signe à 1 et on encode la valeur 1 sur les autres bits. Et donc, la valeur -1 serait représentée par 1 0 0 0 0 01. Cette méthode est simple, mais en fait, elle induit de nombreux problèmes. Le premier, c'est qu'on a en fait deux zéros. On a le 0 positif et le 0 négatif. Et ça, déjà, c'est le gaspillage d'une configuration. Et en informatique, on n'aime pas vraiment gaspiller. L'autre problème, qui est en fait le plus important, est que dès le moment où on veut réaliser des soustractions, on est obligé de considérer les nombres de façon différente selon qu'ils sont positifs ou négatifs, et les circuits de calcul deviennent extrêmement complexes. C'est pour cela qu'il faut être un peu plus astucieux, et que, effectivement, les informaticiens l'ont été. Diapo suivante. Posons les termes du problème. Pour éviter les problèmes issus du codage précédent, il faut concevoir un codage des nombres négatifs tel que, en premier lieu, le bit de signe soit à 1, ça c'est une contrainte que l'on s'impose, qu'il n'y ait qu'un seul 0, et que l'on puisse utiliser la méthode d'addition standard, que ce soit pour additionner deux nombres positifs, comme on le fait déjà, deux nombres négatifs, ou un nombre positif et un nombre négatif. Diapo suivante. Pour cela, étudions les contraintes mathématiques du problème. Par exemple, quel pourrait être le codage du nombre moins 1 ? On connaît le codage du nombre 1, c'est le bit de signe à 0 et tous les bits à 0, sauf le dernier, l'unité qui vaut 1. Le nombre mystère qui vaut moins 1 a son bit de signe à 1, et pour les autres bits, nous n'en connaissons pas la valeur. Mais nous savons que 1 plus moins 1, ça doit faire 0, avec tous les bits à 0. Donc, reprenons à l'envers le processus de l'addition et posons-nous la question: comment peut-on arriver à additionner un nombre à 1 et que cela fasse uniquement des 0 ? Quand on prend la colonne la plus à droite, 1 plus mystère égale 0, ça ne peut pas être 0, c'est nécessairement 1. Donc 1 plus 1 donne 0, effectivement on a gagné sur la colonne des unités, mais cela revient à propager une retenue dans la colonne d'après. Donc 0 plus 1 de retenue, plus mystère doit donner 0, donc 1 plus mystère doit donner 0. Ici encore, la solution naturelle, c'est que le chiffre que l'on cherche soit 1, et donc 1 plus 1 donne 0, et cela propage aussi une retenue. Il en va de même pour toutes les autres colonnes, et donc au final, la seule solution possible pour coder le nombre moins 1 en fonction des trois contraintes que l'on s'est données précédemment, est que le codage de moins 1 soit 1 1 1 1 1 1 1 1. Que se passe-t-il quand on additionne ce nombre 1 1 1 1 1 1 1 1 avec le nombre 1 ? On voit que finalement, dans la première colonne, la colonne des unités la plus à droite, 1 plus 1 donne 0, donc on bascule le bit à 0 et on génère une retenue. Et on a un effet domino d'une certaine façon, c'est-à-dire que la retenue qui va se propager va faire tomber le bit à 1 de chaque colonne et le transformer en 0, et repropager une retenue qui va faire encore tomber le bit à 1 de la colonne suivante. Et à la fin, que se passe-t-il sur la dernière colonne, celle du bit de signe ? Eh bien, il va se passer exactement la même chose, c'est que le 1 de la retenue plus le 1 du bit de signe va donner 0, donc on aura bien un nombre positif, 0, et on générera une retenue, et cette retenue, elle sera perdue, parce que, effectivement, le codage des mots machine sur l'ordinateur a une taille finie, et ce 1 en trop ne peut pas être conservé en mémoire. Ça peut être considéré comme un inconvénient, le fait de ne pas pouvoir stocker des nombres aussi grands que l'on veut, mais finalement ici, on transforme l'inconvénient en avantage. C'est-à-dire que ce 1 disparaît, et on a donc bien, dans la représentation du résultat, que des bits à 0 qui sont mémorisés, et on trouve donc le nombre 0. Nous reparlerons plus loin de cette histoire de retenue, carry. Diapo suivante. Maintenant que nous avons trouvé une solution pour le nombre moins 1, peut-on la généraliser à n'importe quel nombre ? Prenons par exemple le nombre 5. Bit de signe à 0, il s'écrit 00 00 01 01 sur un seul octet. Comment peut-on trouver un nombre qui fasse tomber les dominos, comme on a vu précédemment ? Bien en fait, si on prend le complément bit à bit du codage du nombre 5, c'est-à-dire que pour un 1, on met un 0, et pour un 0, on met un 1. On voit que le complément bit à bit du nombre 5 s'écrira 1 1 1 1 1 0 1 0. Et l'on voit que si l'on additionne le nombre 5 à son complément, à chaque fois on fait soit 1 plus 0, soit 0 plus 1, donc on a des 1 partout, mais aucune retenue. Or, on sait comment passer d'un nombre qui a des 1 partout à un nombre qui a des 0 partout. Et c'est bien ce que nous voulons que quand on additionne 5 au codage de son opposé, on n'ait bien que des 0. Pour cela, il faut rajouter un 1, faire un plus 1, et ce plus 1 fera tomber la chaîne de dominos avec la retenue telle que l'on l'a vu précédemment. Donc en fait, une fois qu'on a complémenté bit à bit la représentation binaire de 5, on rajoute un plus 1. Et donc, au lieu d'utiliser le nombre 1 1 1 1 1 0 1 0, on va utiliser le nombre 1 1 1 1 1 0 1 1, puisque ici, dans la dernière colonne, 0 plus 1, ça donne 1, et il n'y a pas de retenue. S'il y avait eu un 1 dans le complément, il aurait fallu faire 1 plus 1, 0, et propager la retenue autant de fois que nécessaire. Vous pouvez voir maintenant qu'en additionnant bit à bit le codage de 5 et le codage de moins 5, sur la première colonne, 1 plus 1 donne 0 et une retenue, et cette retenue va se propager de colonne en colonne jusqu'à ce qu'au final, on trouve la valeur 0. Diapo suivante. Ainsi, ajouter un nombre à son opposé en complément à 2 donnera toujours 0, puisqu'en fait, quand on ajoute un nombre à son complément bit à bit, on a toujours un vecteur constitué uniquement de 1, et quand on ajoute 1 à ce vecteur, ça donne un vecteur constitué uniquement de 0, avec la perte de la retenue. De fait, on a effectivement trouvé un système qui permet de représenter n'importe quel nombre entier négatif, de sorte qu'en utilisant le mécanisme de l'addition binaire traditionnelle, quand on ajoute un nombre à son opposé, on obtient bien toujours 0. Diapo suivante. Ce principe s'étend à toute addition entre entiers signés. Par exemple, si l'on prend ici 46 plus moins 53, le codage de 46, c'est bit de signe à 0, et donc 0010111. Le codage de moins 53 en complément à 2 sur un octet va être bit de signe à 1, 1100 1011. Vous pouvez, sur une feuille de papier, calculer le complément à 2 de moins 53 et vérifier qu'il correspond effectivement au codage binaire de 53 en décimale. Et si vous additionnez bit à bit le codage binaire de 46 et le codage binaire de 53, vous trouvez le nombre 1111 1001, bit de signe à 1, donc c'est un nombre négatif. Et si vous calculez le complément à 2 de ce résultat, vous trouverez la valeur 7, donc ce nombre est le codage en complément à 2 de moins 7, qui est effectivement le résultat de 46 plus moins 53. Diapo suivante. En utilisant ce système, on peut donc retrouver des valeurs remarquables. Ici, elles sont représentées sur 8 bits. Mais sur un processeur sur 16 bits, ou 32 bits, ou 64 bits, elles auront exactement la même structure. Le nombre 0 est un nombre dont tous les bits valent 0. Le nombre 1 est un nombre dont tous les bits de poids fort valent 0, sauf l'unité. Moins 1, comme on l'a vu, est représenté par un nombre dont tous les bits sont à 1. Le plus grand nombre positif représentable a son bit de signe à 0, et tous les autres bits à 1. Et, de façon un peu contre-intuitive, mais nous allons voir que c'est normal, le plus grand nombre négatif représentable, en valeur absolue, c'est-à-dire le plus petit nombre négatif, est celui qui a le bit de signe à 1, et tous les autres bits à 0. Pour s'en convaincre, on voit que moins 1 est le nombre qui a le bit de signe à 1, et tous les bits à 1. De fait, celui qui est le plus différent de moins 1, c'est-à-dire le plus éloigné de moins 1 en termes de représentation binaire, et le nombre négatif qui a le bit de signe à 1 et tous ses bits à 0. En termes de domaine de validité, de domaine de représentation d'un nombre entier signé sur n bits, on a vu précédemment que parce que on prenait une valeur pour le bit de signe, on ne pouvait coder que 2 puissance n-1 valeurs différentes, et rappelons-nous que 0 est un nombre positif. Donc le 0 prend un codage dans l'espace des nombres positifs, et donc les nombres positifs vont de 0 à 2 puissance n-1, moins 1. En ce qui concerne les nombres négatifs, 0 ne fait pas partie de cet espace. On démarre à partir de moins 1 jusqu'au plus grand nombre négatif représentable en valeur absolue, le plus petit nombre qui sera négatif. Et donc là, on part de moins 1 jusqu'à ce nombre. Et donc, puisqu'on a 2 puissance n-1 possibilité partant de moins 1, le plus petit nombre négatif représentable, c'est moins 2 puissance n-1. Diapo suivante. Si l'on veut facilement se représenter la façon dont les nombres sont organisés, on peut, sur l'axe allant de moins l'infini à plus l'infini, poser le 0 au milieu et représenter, de façon croissante, les nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels sont ceux dont le bit de poids fort, le bit de signe, reste à 0. Donc on part de 0000, ici sur 16 bits. Dans les diapositives précédentes, on était resté sur un octet avec 8 bits, mais on montre ici que le système vaut pour des mots d'autant de bits que l'on veut, selon le processeur qui est utilisé. Un nombre sur 16 bits doit contenir 4 chiffres hexadécimaux, pour représenter 2 octets, et donc on va de 0000 jusqu'au nombre qui a tous les bits à 1, sauf le bit de signe à 0. Ce qui veut dire que le premier chiffre hexadécimal contient un 0, puis 3 bits à 1. C'est le codage du chiffre hexadécimal 7. Les autres chiffres hexadécimaux ont tous leurs bits à 1. De fait, un chiffre hexadécimal dont tous les bits sont à 1, c'est le chiffre F. Donc, sur 16 bits, le plus grand nombre entier naturel est 7FFF. Donc, les nombres entiers naturels croissent de 0000 à 7FFF sur 16 bits. Pour les nombres négatifs, la valeur moins 1 est celle dont tous les bits sont à 1. De fait, chaque chiffre hexadécimal vaut F, et donc le nombre qui est immédiatement avant 0, 0000, et la valeur moins 1 qui vaut FFFF sur 16 bits. Puis, à mesure que l'on descend vers les nombres négatifs, on arrive jusqu'à la valeur qui est codée par un bit de signe à 1 et dont tous les autres bits sont à 0. Donc le premier chiffre hexadécimal est constitué de 4 bits qui valent 1000, c'est-à-dire la valeur 8 en hexadécimal. Tous les autres chiffres sont constitués de 4 bits à 0, c'est-à-dire le chiffre hexadécimal 0. Au final, le plus petit nombre entier représentable signé sur 16 bits est 8000. Et l'on voit ainsi comment les nombres croissent de 8000 à FFFF, puis passent à 0000 jusqu'à 7FFF. En fait, il s'agit d'un grand compteur qui pourrait aller de 0000 jusqu'à FFFF, mais vous voyez, on part du milieu, on va jusqu'à 7FFF, et puis on reboucle vers 8000 jusqu'à FFFF. Diapo suivante. Comme on l'a dit, la quantité de mémoire pour représenter un nombre est finie sur un ordinateur. Que se passe-t-il lorsque l'on cherche à représenter des nombres au-delà de ce pouvoir de représentation? Eh bien, si on prend l'exemple dans la diapositive de la valeur 110, 0110110, à laquelle on souhaite ajouter la valeur 43, 0010111, on voit que quand on ajoute ces deux nombres positifs, en utilisant les règles classiques de l'addition binaire, on trouvera le nombre 1001-1001. Or, ce nombre-là, dont le bit de signe est à 1, code en fait la valeur moins 103. Que s'est-il passé? Il y a eu débordement, c'est-à-dire que, parce que la valeur n'était pas représentable, le résultat, 153, eh bien, on a rebouclé, exactement comme ce qui était montré dans la diapositive précédente. On est sorti par en haut et revenu par en bas, et donc on se retrouve avec une valeur de moins 103 et non pas 153. Pourquoi ? Ben parce que, rappelez-vous, sur un nombre de 8 bits, 2 puissance n-1, c'est-à-dire 2 puissance 7 moins 1, vaut 127. Donc 127 est le plus grand nombre entier représentable. Or, 110 plus 43, c'est plus grand que 127, et donc on a un débordement. Notez ici que, quand on a calculé la somme, il n'y a pas eu de retenue qui s'est échappée vers la gauche du calcul. Et pourtant, on a un débordement. Donc on voit que la notion de débordement n'est pas celle de retenue. Les deux notions sont différentes. Il peut y avoir débordement sans perte de retenue, comme ici, ou perte de retenue sans débordement, comme par exemple quand on additionne un nombre positif et un nombre négatif.